Bonsoir, chers internautes et spectateurs, un auditeur de Radio Courtoisie. Nous sommes aujourd'hui en canicule, il fait très chaud, donc nous disons un petit peu n'importe quoi. On essaie de récupérer. Donc nous sommes au Libre Journal de la Chrétienté, qui est dirigé habituellement par l'abbé Guillaume de Tannoirne, qui ce soir est animé par Arnaud Guyot-Janin. Une émission qui va être assez contrastée, puisque la première partie va porter sur la Corse, notamment sur le thème « La Corse aux Corses dans la France », avec Nicolas Battini, qui est dirigeant du mouvement Massa Palatina et qui est conseiller municipal de Bastia et qui est également à l'allié du RN, du Rassemblement National, en Corse. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons avec l'abbé Guillaume de Tannoirne, qui est chez lui ici, évidemment, également directeur du Libre Journal, prêtre et directeur de Mondévi, et nous parlerons des sacres des quatre évêques par la Fraternité Saint-Pédis le 1er juillet prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors, commençons par la Corse. Bonsoir Nicolas Battini.
Bonsoir.
Alors, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes intervenu déjà sur Radio Courtoisie il y a quelques 20 minutes et même une demi-heure. Je vais essayer de ne pas vous poser exactement les mêmes questions si jamais les auditeurs étaient à l'écoute à l'époque et puis qu'ils le sont aussi maintenant. Mais peut-être qu'il y a des choses quand même qu'on peut approfondir dans le recoupant de certaines de ces questions. Alors, vous êtes actuellement dans une position, me semble-t-il, un peu difficile. Parce que d'un côté, la loi sur l'autonomie de l'île de Beauté, de la Corse, un projet de loi vise à l'autonomie de cette île de Beauté, de cette Corse, et en même temps, Marine Le Pen, vous-même, etc., est hostile à cette autonomie qu'il ne faut pas confondre avec l'autonomie. Alors, peut-être pourriez-vous, dans un premier temps, déjà dire quelles sont les différences entre les deux autonomies, surtout définir ce que veut dire autonomie. Et ce qui peut paraître même incroyable, parce que dans les milieux de droite notamment, il y a une certaine confusion, quelle est la différence entre autonomie et indépendance ?
Alors, merci de m'accueillir. Non, nous sommes dans une situation parfaitement confortable, en ce que nous sommes cohérents avec la ligne que nous avons édictée sur la base d'une convergence avec le Rassemblement national. Vous savez, notre principe, notre postulat de départ est très simple. Oui, nous sommes autonomistes, comme la plupart des forces qui composent aujourd'hui l'échiquier politique en Corse, et comme aujourd'hui beaucoup de forces qui constituent l'échiquier politique national. Mais la question, ce n'est pas de savoir s'il faut une autonomie ou non, c'est de savoir quelle autonomie et pourquoi faire. Et c'est en cela que Marine Le Pen s'est opposée à cette loi autonomie, Marine Le Pen et nous-mêmes, parce que nous avons établi le contre-projet qu'a porté Marine et le Rassemblement national ensemble. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui la boussole en termes de préconisation en Corse de ce que peut avancer et proposer le Rassemblement national. C'est précisément pour cela que nous nous sentons parfaitement à l'aise dans ce que le RN peut proposer en Corse. Alors, quelle différence entre notre autonomie, c'est-à-dire l'autonomie insulaire que propose Marine Le Pen, et l'actuelle loi ? Eh bien, tout simplement, sur trois points, essentiellement. Hein, je vais essayer d'être synthétique.
Oui.
Le premier point qui est sur la question du pouvoir législatif. Nous, nous sommes favorables, en effet, à ce que l'Assemblée de Corse puisse voter des lois dans un certain nombre de domaines, en dehors des questions régaliennes. Bon, je pense que c'est très clair comme point de compréhension de départ. Marine Le Pen souhaite que cette possibilité de faire la loi soit encadrée par une appréciation souveraine du Parlement. C'est-à-dire l'Assemblée de Corse vote une loi. Si le Parlement l'accepte, cette loi devient effective. Si le Parlement ne l'accepte pas, cette loi ne devient pas effective. C'est aussi simple que ça. L'actuel projet de loi va plus loin que cette proposition. C'est notre première différence, et même si nous sommes des autonomistes convaincus, nous l'acceptons parfaitement dans une logique de compromis. D'autant plus que les deux autres points qu'a proposé Marine Le Pen dans son contre-projet, et qui ont été refusés dans le cadre des amendements, ce qui a entraîné en effet notre opposition à ce texte sur l'autonomie, c'est la création d'un conseil des pièves, qui correspond en effet à la volonté de rétablir des circonscriptions en Corse permettant d'établir des élus et de retisser, de renouer un lien entre la représentation démocratique et les populations les plus enclavées qui aujourd'hui sont absolument abandonnées par l'hégémonie politique de la collectivité de Corse qui est dirigée depuis Ajaccio. Et puis enfin, un troisième point essentiel à nos yeux, qui est la préférence régionale,
oui,
et qui est une proposition que nous avons soumise à Marine Le Pen, qu'il a parfaitement acceptée et intégrée. et qui signe en effet une différence idéologique et doctrinale
en matière de logement et d'emploi
avec l'actuelle majorité. En termes de logement et d'emploi, c'est évidemment une proposition qui a fait bondir LFI, qui, à travers l'amendement numéro 111 qu'elle a imposé, notamment aux députés autonomistes corses, et qui stipule qu'il n'y aura jamais de rupture d'égalité entre les citoyens en Corse, ce qui évidemment invalide de facto toute mesure telle que la priorité régionale.
Alors,
voilà globalement les grandes différences que nous avons avec ce texte d'autonomie.
Alors, on a bien compris politiquement où vous vous situez sur ce cap donc d'une autonomie régionale dans une France qui pourrait être fédérale et reconnaître différentes identités que sont la Bretagne, l'Alsace, le Pays Basque. Mais tout ça, pour l'instant, n'est pas enregistré. Mais peut-être qu'elles vont peut-être faire des petits.
Mais ceci n'est pas nécessairement partie de notre projet. C'est pour ça que nous proposons l'autonomie insulaire, ce qui cloisonne le sujet à la Corse seule. Vous savez, moi, je n'ai pas de vision fédérale pour la France.
Non, mais je voulais dire par là que ce qui était intéressant, c'est que métapolitiquement, le projet d'autonomie de la Corse, qui ne trouve pas forcément votre acquiescement, a au moins le mérite d'ouvrir un débat pour montrer qu'il y a une troisième voie au-delà du centralisme jacobin et du séparatisme ou de l'indépendantisme gauchiste. Et cet autonomisme identitaire corse, qui s'inscrit dans le cadre d'une France enracinée, elle aussi, devrait a priori être le cadre dans lequel vous seriez aujourd'hui le plus à même de pouvoir le faire vôtre.
Tout à fait, d'autant plus que, et je vais profiter aussi de cet ajout dans le propos, pour répondre à l'une des questions que vous m'avez posées, à savoir quelle est la différence entre l'indépendance et l'autonomisme. C'est pas une différence de degré, c'est même une différence de nature. C'est l'autonomie et la reconnaissance culturelle et identitaire aussi qu'elle implique qui, si j'ose dire, coupe l'herbe sous le pied à l'argumentation indépendantiste qui s'établit toujours sur un sentiment de rancœur et de frustration et aussi, donc, par conséquent, de victimisation. Les Corses produisent dans une partie de leur corps électoral de l'indépendantisme, c'est-à-dire 10% des voix au territorial. Là, il faut quand même rétablir un certain nombre de réalités factuelles pour bien comprendre la situation. C'est beaucoup de bruit pour peu d'électeurs, bon, et pour peu d'élus. Il y a aujourd'hui à l'Assemblée de Corse une soixantaine d'élus, il y a moins d'une dizaine d'élus indépendantistes, bon, qui dans le fond ne le sont pas tout à fait dès lors qu'on va au bout des sujets. Bon, mais tout ceci s'établit systématiquement sur une frustration et une rancœur identitaire qui peuvent être légitimes. C'est-à-dire que plus la France est jacobine, plus elle produit de l'indépendantisme, plus les éléments les plus subversifs ont les moyens d'expliquer aux populations locales, en l'occurrence aux Corses, voyez comme Paris nous dénigre, voyez comme Paris déteste ce que nous sommes et à quel point elle est engagée et elle œuvre dans le sens de notre disparition. Dès lors que la France, dans son expression globale, accorde une place tout à fait significative aux identités régionales et en l'occurrence à l'identité corse, ce discours perd tout son carburant politique et produit même le contraire. Et cette réalité permet de produire le contraire, c'est-à-dire des gens qui se sont parfaitement enracinés dans leur culture corse, qui sont très attachés, qui, dès lors qu'ils estiment que la France leur apporte les garanties de leur sauvegarde culturelle, linguistique et identitaire, eh bien, ont toute possibilité de s'estimer, de se considérer comme d'ardents patriotes français.
Je parlais tout à l'heure de France fédérale et ça vous a fait un peu bondir, parce que c'est vrai que le Rassemblement national n'est pas engagé dans cette voie, en tout cas pour les autres régions que celle de la Corse. Il y a quand même une question qui se pose, me semble-t-il, c'est que Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, a fait référence au principe de subsidiarité, qui veut que l'on prend une décision à l'échelon le plus bas possible, c'est-à-dire que les choses locales se décident localement, les choses communales se décident communellement, les choses régionales régionalement, nationales nationalement. Bon. Dans ce cas, cette république corse dans une France française, on peut dire d'une certaine façon qu'elle est assez opposée à la République une et indivisible. Puisque la République une et indivisible, comment dirais-je, uniformise les identités collectives et notamment la singularité corse, au lieu qu'une République une et diverse aspirerait justement à ce qu'il y ait une identité corse qui existerait comme une identité française et que les deux pourraient se conjuguer.
Oui, mais si vous voulez, je pense que l'important dans ce débat, c'est de bien séparer la question institutionnelle de la question identitaire. Un État unitaire peut tout à fait, tout en concentrant l'essentiel des pouvoirs à Paris, pratiquer le principe de subsidiarité sans pour autant être fédéral, c'est-à-dire que les grandes décisions, notamment les questions liées aux dimensions régaliennes de l'État, sont prises à Paris. Et pour autant, les questions quotidiennes de gestion et de bonne organisation de la vie peuvent dépendre de l'échelon communal. Je ne trouve pas qu'il y ait pas nécessairement d'antagonisme entre ces deux réalités-là. Qui plus est, dans ce contexte que je viens d'évoquer, même un État unitaire peut donner une très large part de reconnaissance culturelle, identitaire à ces régions. Inversement, un État fédéral, tout en donnant des statuts extrêmement larges en termes de capacité de légiférer, eh bien, peut mener la chasse absolue aux identités, ne serait-ce que par gauchisme.
Ah bah bon, on en a d'ailleurs l'exemple aujourd'hui avec Bruxelles, puisque Bruxelles réclame du principe de subsidiarité. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les peuples qui, au départ, décident de ce qui peut se passer entre eux, chez eux, pour revenir jusqu'à l'échelon européen, mais au contraire à Bruxelles, qui décide pour les identités, pour les particularismes, pour les cultures enracinées, et c'est ça qui fait qu'il y a une parodie, en quelque sorte, de subsidiarité.
Vous voyez qu'il y a bien donc une différence entre la question institutionnelle et la question identitaire. Des gens peuvent être extrêmement exigeants sur la question institutionnelle et n'avoir que mépris pour les questions identitaires, et le contraire aussi. La revendication peut essentiellement se porter sur la défense d'une langue régionale, d'une culture, d'une identité et aussi des mesures qui favorisent l'enracinement local, hein, notamment les questions de succession, de fiscalité, la priorité régionale, etc., sans pour autant qu'on demande à ce que la région dispose de sa diplomatie et de son armée, vous voyez.
Oui, bien sûr. Alors, j'étais ravi d'entendre Marine Le Pen lors de ce discours à l'Assemblée nationale la semaine dernière, parce que bon, elle a ouvert en quelque sorte le feu en disant que le mot autonomisme ne lui faisait pas peur. Bon, c'est déjà une première chose qui n'était pas forcément toujours dite par le Rassemblement national ou par le Front national, bien que. Lors des dernières présidentielles, mais celles d'avant, il y avait eu un meeting de Marine Le Pen en Corse, assez exceptionnel, qui avait vanté l'identité corse, la culture corse, la langue corse, et qui, justement, n'était pas du tout en phase avec le nationalisme jacobin, dont elle dit d'ailleurs elle-même, nous étions historiquement jacobins, nous sommes aujourd'hui pragmatiques.
Absolument, meeting qui s'était d'ailleurs clôturé par le Dio vi salvi Regina, qui est l'hymne de la Corse.
Oui, bon. On va passer d'ailleurs.
Vous savez, c'est très cohérent avec la position de Marine aujourd'hui. Vous savez, c'est une anecdote que je raconte très souvent. Elle n'a rien de confidentiel et d'ailleurs l'intéressé est tout à fait d'accord pour que je la diffuse. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Marine Le Pen l'année dernière, nous avons eu une longue discussion sur tous ces sujets. Je lui exposais les préconisations de mon mouvement et aussi les perspectives que nous tracions et la volonté que nous avions de développer une doctrine autonomiste, corse, nationaliste, mais ralliée, en effet, et composante du camp national, parce que nous pensons qu'il y a une nécessaire complémentarité à l'heure des grandes pressions migratoires et des perspectives conflictuelles qui vont venir dans toute l'Europe, que ce soit avec l'islamisme ou avec le gauchisme. Et Marine Le Pen m'a dit la chose suivante, et je l'ai cru de bon gré, précisément parce que j'étais déjà au fait et au courant d'anecdotes ou d'événements tels que le meeting que vous évoquez, qui montrait quand même sa disposition bienveillante à ce sujet. Et elle me dit, écoute, ça fait des années que je souhaite avoir des positions clairement favorables à la défense des cultures régionales et des identités régionales. Je suis bretonne. C'est une part essentielle de ma vie, mon village, la Trinité-sur-Mer. J'ai enterré mon père il y a peu, il y est né, nous l'avons enterré au son des cornemuses de nos ancêtres celtes. C'est des choses qui me parlent. Une de mes nièces, ma sœur ont des prénoms bretons. Bref, c'est quelque chose qui m'habite. Mais je n'ai jamais eu la possibilité de le faire d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce que dès lors que je voulais me positionner de façon favorable par rapport aux identités, aux langues régionales, je n'avais pour seul interlocuteur locaux que des gauchistes anti-français. Bon, ce n'est pas le cas pour ce qui vous concerne. Par conséquent, nous allons pouvoir faire du bon travail. Voilà, donc, c'est ce qui explique beaucoup de choses, en effet, dans le repositionnement du Rassemblement national.
Alors, nous allons écouter l'hymne marial à la Corse, le Salve Regina, donc cet hymne à la Vierge Marie en Corse. À tout de suite. Voilà le Salve Regina qui doit vous toucher, j'imagine, Nicolas Battini, et que vous devez entendre, je ne dis pas régulièrement, mais enfin très, très souvent dans l'île de beauté que vous habitez, que vous aimez, où vous êtes né.
Vous savez, avant que d'être un hymne au sens politique du terme, c'est-à-dire mais même revendicatif, c'est un chant qui nous accompagne dans notre quotidien. Depuis maintenant plusieurs générations, hein, depuis au moins le 18e siècle, dans sa forme la plus fréquente, qui est celle des enterrements. Vous savez que nous enterrons nos morts, en Corse, au-delà de toute politisation, et quelle que soit l'appartenance partisane, nous enterrons nos morts de façon quasi systématique au son du Diobi Salvi Regina. Donc c'est aussi quelque chose de parfaitement symbolique que de prendre en compte le fait que l'hymne d'une communauté, d'une ethnie, d'un peuple est aussi le chant de clôture des enterrements. Il y a un lien entre la vie commune et la mort et le départ des siens. Oui, je pense que ça dit aussi beaucoup de choses de l'âme des Corses. Si l'on plus on adjoint à tout ceci la considération suivante, c'est que ça, en effet, c'est un chant marial, ce qui imprègne dans toute sa dimension la culture et l'identité corse de catholicisme. Voilà. Moi, je sais, c'est un débat qu'on a très souvent aussi avec des membres de l'Église catholique. Moi, je revendique parfaitement mon attachement à un catholicisme culturel. Je sais que c'est quelque chose qui est parfaitement dédaigné par une partie du clergé, qui considère qu'il n'y a de catholique que l'âme ou l'homme ou la femme qui adhère à une doctrine et à une pratique. Bon, c'est pas mon avis. Je pense que le catholicisme romain, comme toute religion, va bien au-delà de ses simples institutions et de sa propre doctrine religieuse. Il y a une somme d'habitudes, de coutumes, de paysages, de représentations qui, je crois, imbibent comme ça les populations et les peuples et qui va jusqu'à créer des civilisations. Voilà.
Alors, un catholicisme corse enraciné, qui n'est pas dénué d'ailleurs d'un certain paganisme enraciné lui aussi avec sa sève, sa vigueur, qui a été sublimé par le christianisme historiquement, mais non défiguré bien évidemment, et qui en Corse est toujours assez vivace. Hein. Il y a toujours cette synthèse intégratrice et transcendante du christianisme par rapport au paganisme.
Absolument, et parmi les pratiques qui illustrent ce que vous dites, il y a notamment la pratique de l'otiu, hein. Donc l'otiu, c'est-à-dire l'œil. Quelque chose qui est encore très très présent en Corse. J'ai dans ma propre famille des gens qui le font. J'ai moi-même appris, mais je n'ai pas le talent des signadors, hein, des signeurs, qui consiste en effet à éloigner le mauvais œil par des incantations qui sont chrétiennes, qui sont des prières et qui ne s'apprennent que le soir de Noël. Alors chose qui évidemment est parfaitement combattue par, je dirais la dimension officielle de l'Église catholique, mais qui est vécue de façon très, très spontanée et normale par le clergé local. Oui, donc c'est aussi un certain nombre de débats. Hein. Je suis au fait des considérations concernant la magie, l'occultisme, etc.
Y oui, compris là, c'est autre chose. Oui.
Oui, mais c'est quelque chose qui correspond à ce
oui,
que...
Oui, qui correspond effectivement à un certain tellurisme.
C'est un héritage du paganisme qui s'est recyclé et qui s'est adapté à la réalité catholique de la Corse qui existe depuis maintenant 1500 ans.
Et oui.
Voilà. Donc, et il y a aussi d'autres pratiques. Hein. Vous savez, la pratique de la vengeance coutumière, alors qui a largement reculé en Corse
la vendetta.
Depuis ce dernier siècle, la vendetta, bien sûr, qui a largement reculé, et c'est heureux, mais qui trouvait aussi des justifications à travers des considérations chrétiennes et religieuses. Oui. Donc bon, c'est quelque chose, en effet, et qui aujourd'hui continue d'exister à travers des formes, évidemment, beaucoup plus édulcorées, encore une fois, mais qui correspondent à une certaine virilité culturelle et spontanée, quand même largement surreprésentée dans les interactions entre êtres humains en Corse, vous voyez, pour le dire poliment.
Oui.
Bon, tout ça fait partie, oui, c'est vrai, de ce qu'est l'identité corse, qui s'articule entre la cohabitation entre, en effet, ce catholicisme et les valeurs qu'il définit et qu'il structure, qui sont parfaitement présentes dans le paysage mental des Corses, et aussi des survivances d'archaïsme sans connotation péjorative dans mon propos, c'est-à-dire de comportements anciens, d'atavisme, qui viennent aussi d'un temps pré-chrétien.
Alors, Marine Le Pen a pu dire à votre propos que vous gagnez à être connu. Alors, je ne vais pas déclamer toute votre identité, simplement une question qui se pose en ce qui vous concerne. Est-ce que vous avez la foi personnellement, ou est-ce que votre catholicisme s'en tient à une dimension strictement civilisationnelle ?
Ben écoutez, si j'avais la foi, je ne vous le dirais pas.
D'accord.
Parce que j'aurais trop peur d'être un pharisien. et si je n'avais pas la foi, je ne vous le dirais pas non plus.
Parfois, on essaye.
Peut-être, oui, parce que j'aurais trop peur d'établir ça comme une ligne politique.
Ouais, ce qui serait un peu restrictif.
Ouais. Bien sûr, ce qui n'est pas mon intention. Pour le reste, vous savez, je revendique aussi le droit de croire le lundi et de ne plus forcément croire le mardi. Vous voyez, je m'en remets en fait à l'intimité
vous êtes honnête.
De ce genre de réflexion. Mais au-delà de la doctrine purement catholique, oui, j'adhère parfaitement à l'idée que l'âme est éternelle et que les considérations matérielles ne constituent qu'une partie de la réalité humaine. Voilà, je suis acquis à cette conviction.
Alors, j'avais dit qu'en 2017, Marine Le Pen avait fait un discours en Corse qui était profondément patriote corse et français, doublement justement, mais en rappelant toute la signification de la civilisation corse, avec son identité, sa culture, sa langue, etc. Et elle a été un peu moins, me semble-t-il, suivie quelques années après, sauf qu'aux dernières présidentielles, elle fait 58% au deuxième tour en Corse. Et si l'on va plus loin encore, puisque effectivement Marine Le Pen dit qu'il y a une tradition jacobine au sein du RN, en tout cas au sein du Front National. Il faut se souvenir quand même là aussi que Olivier Martinelli, qui était le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans, était lui aussi très implanté en Corse et faisait de très bons scores pour le Front National. Et même Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il n'était pas trop jacobin, pouvait lui aussi faire des scores extraordinaires en Île-de-Beauté. Donc finalement, les choses ne sont pas si simples.
Non, les choses ne sont pas si simples. Vous faites bien de parler d'Olivier Martinelli parce que c'est quelqu'un d'une grande qualité
oui.
qui a disparu du paysage politique, qui s'est consacré à autre chose. Que pour ce qui me concerne, j'ai tenté de contacter oui. à de nombreuses reprises parce que je ne vous cache pas, et ça me fait plaisir de pouvoir le dire publiquement, je ne vous cache pas que je connais son travail, je sais ce qu'il a réalisé de façon même ponctuelle,
ouais.
Il y a une vingtaine d'années, parce que la chose ne s'est pas enracinée ne s'est pas suffisamment structurée pour survivre. Mais je peux dire très clairement que je m'inspire à titre personnel des positionnements qu'il a pu avoir. En tout cas, je m'en suis inspiré dans le sens de la validation de ce que je ressentais moi-même, mais de mon point de vue de nationaliste corse, ce qu'il n'était pas. Mais il m'a fait en effet, il a fait partie des éléments de compréhension qui m'ont poussé à décider avec mes amis d'aller dans le sens d'une convergence, parce qu'en effet, il est la preuve historiquement qu'il existait déjà dans le Front National à l'époque eh bien, des dispositions très bienveillantes vis-à-vis des revendications. Olivier Martinelli, c'était quelqu'un qui disait que l'identité de la Corse est chrétienne et qu'il fallait par conséquent faire comme en Italie et remettre des crucifix dans les écoles et apprendre aux petits écoliers le Dio vi salvi regina. Voilà, et leur faire chanter tous les jours, après les cours et avant. Oui, bon, c'était des choses parfaitement intéressantes du point de vue palatinien. Et par conséquent,
Qui veut
oui,
dire
je
paladin?
pense. Alors, oui, alors, vous savez, le paladino, ça a été le nom que nous avons choisi pour l'association métapolitique qui a préparé doctrinalement l'arrivée 2 ans plus tard de Mos à Baladina, qui est notre mouvement électoral. Et qui nous a permis avec le Rassemblement national d'engranger les succès de récents des municipales. Le paladino, c'est avant tout le nom des menhirs dressés un peu partout en Corse depuis le néolithique et sur lesquels étaient sculptés des soldats. C'était un marqueur de territoire. Il y avait une épée, on voit la représentation d'épées, d'éléments guerriers. Qui étaient des éléments des marqueurs de territoire dressés par nos lointains ancêtres il y a 10 000 ans. Et les archéologues on les ont appelés paladines, ou précisément en effet parce que le terme en Corse renvoie à la chevalerie médiévale. Voilà. Et à la garde du Mont Palatin à Rome. Oui. Donc il y a aussi dans ce terme-là la représentation, l'illustration de notre syncrétisme culturel, de notre attachement à la catholicité de la Corse, mais aussi la prise en compte de tout ce qui a précédé le christianisme en Corse. Je l'ai dit dans l'émission précédente, mais je le redis parce que c'est une formule qui me convient parfaitement. Les Corses sont résolument catholiques, mais farouchement païens.
Bah c'est bien, ça va faire beaucoup de chrétiens alors en Corse qui sont quand même encore reviviscents, si j'ose dire. Alors, une question aussi par rapport au vocabulaire. On a parlé de l'autonomisme tout à l'heure. Le terme de nationalisme, là aussi, est-ce qu'il ne fait pas problème? Parce que bon, le nationalisme renvoie historiquement en France au jacobinisme et renvoie également chez les gens de gauche ou chez les gauchistes un nationalisme, disons, d'émancipation populaire, de libération nationale. Bon, or, vous préconisez un nationalisme qui soit ni l'un ni l'autre, mais qui aille de pair avec une défense de l'enracinement corse. Au-delà de la Corse avec la France et avec peut-être d'autres identités que vous avez déclamées tout à l'heure, qui pourraient peut-être s'agréger à ce que moi j'appelle un fédéralisme. C'est là où on n'est peut-être pas d'accord.
Eh bien, il y a différentes définitions du nationalisme, en effet, vous en avez évoqué deux. Il y a le nationalisme de la Révolution française, oui, qui n'est objectivement pas le nôtre. Il y a les nationalismes tiers-mondistes des pays d'Afrique et d'Asie contre les forces et les puissances coloniales qui ont débouché sur des indépendants. Vous n'êtes pas sans savoir que les Corses ne sont ni africains ni asiatiques. C'est ce qu'oublient les soi-disant nationalistes issus des années 70. Et puis, il y a un autre nationalisme, et beaucoup d'autres nationalismes, mais parmi eux, il y en a un qui consiste tout simplement à se revendiquer d'un peuple en particulier, bien identifié, et de vouloir assurer la défense, la sauvegarde et la transmission de son patrimoine culturel et identitaire. D'aucuns diraient que c'est une définition maurrassienne qui disait dans son ouvrage Mes idées politiques, qui définissait le nationalisme à travers la volonté de défendre les pères, leur substance, leur essence et tout leur legs culturel et historique. Bon, sans insister trop sur telle ou telle référence, vous savez, moi je me reconnais parfaitement en effet dans la dernière définition, d'autant plus que cette dernière, que vous pouvez aussi appeler fédéralisme, pourquoi pas, dès lors que c'est un fédéralisme identitaire, encore que le terme
Subsidiariste.
fédéralisme subsidiariste, il y a en effet 1 000 possibilités de définition. Moi, ce que je crois tout simplement, c'est de revenir à des notions très claires. Moi, je suis un nationaliste corse parce que j'estime qu'il existe un peuple corse, que je souhaiterais que la France le reconnaisse et que par cette reconnaissance, elle lui donne une place particulière pour permettre à ceux qui sont issus précisément de ce peuple et qui sont attachés à sa survie et à sa sauvegarde d'être en même temps des patriotes corses et d'ardents patriotes français. Voilà. Voici l'équation que nous proposons, vers laquelle nous œuvrons maintenant depuis plusieurs années, et je dirais vers l'aboutissement de laquelle nous avons franchi un grand pas en établissant cette convergence et cette alliance avec le Rassemblement national qui, en effet, à notre contact, eh bien, peut entreprendre une réforme intérieure, interne, structurante, en faveur de plus de régionalisme et d'une forme, en effet, de bienveillance vis-à-vis de ce que nous avançons et de ce que nous défendons.
Alors, Alexandre Devecchio, qui est journaliste au Figaro, a écrit un article la semaine dernière qui s'intitule « Faire que la Corse reste la Corse ». Et il écrit à ce propos « En vérité, le vote en faveur des nationalistes, et on y revient, est moins un vote communautariste ou indépendantiste qu'un vote identitaire ou protectionniste. De même que l'antifascisme n'a pas permis d'enrayer le vote RN, il est vain de vouloir faire barrage aux nationalistes en stigmatisant le prétendu racisme des Corses. Dans les deux cas, il faut répondre à l'angoisse existentielle des Français, faire que la France reste la France et que la Corse reste la Corse. Et après, il cite, alors c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il montre que les problèmes qui se posent en Corse se posent également en métropole. C'est à peu près les mêmes problèmes, notamment vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis du chômage, vis-à-vis de la précarité, etc. etc. Et il montre à travers l'exemple que donne Christophe Guillouis dans La France périphérique qu'il y a véritablement une question qui obsède les Corses et celle qui hante la France périphérique ainsi que les classes moyennes et populaires occidentales au XXIe siècle. Vais-je devenir minoritaire dans mon île, mon village, mon quartier ? Voilà, le géographe Christophe Guillouis.
Oui, j'ai pu rencontrer Monsieur Devecchio, qui est une personne de qualité, ouais. Parfaitement intelligente et pertinente, mis à part la divergence que nous pouvons avoir sur la question vraiment de l'autonomie. Hein. Moi, je reste un autonomiste convaincu, mais dans le cadre de ma propre doctrine et donc de parfaite appartenance à la nation française, en dehors de cette question qui peut nous opposer, quoique je ne désespère pas de continuer à convaincre à ce sujet dans notre propre camp culturel et intellectuel, j'entends. Hein, je ne suppute aucune appartenance partisane à M. Devecchio. Oui, c'est une personne de qualité et je pense que, eu égard aux propos qui sont les siens, il pourrait tout à fait prendre sa carte chez nous.
Alors, il dénonce l'archipélisation et l'éventuel communautarisme qui pourrait advenir si une autonomie gouvernementale intervenait comme elle doit se profiler avec le texte actuel de Constitution. Vous, évidemment, cette archipélisation et cette communautarisme, j'imagine que vous les récusez. Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce que c'est précisément parce qu'il y a ce danger que les réponses qui sont les vôtres sont les bonnes réponses?
Disons les choses très clairement. Lorsqu'on parle d'archipélisation et de danger, on ne parle pas tant des Bretons et des Basques que de la communauté issue de l'immigration musulmane. Disons les choses, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit. Hein, et c'est de cela dont il s'est agi lors des débats à l'Assemblée nationale, lorsque tout le monde disait « c'est une porte d'entrée vers le communautarisme », très peu de gens, en vérité, craignent le communautarisme des Bretons. Voilà. Disons les choses très clairement. Alors, je pense tout d'abord qu'il s'agit de bien recentrer le débat. Lorsqu'on parle d'une communauté corse, encore une fois, même le Rassemblement national n'était pas favorable à l'utilisation de ce terme, ce que nous entendons parfaitement dans le cadre de ce débat national.
Hein, D'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit, hein, durant son discours à l'Assemblée nationale, elle réfute la notion de communauté
elle l'a dit, et
non pas d'identité ou de souveraineté.
Elle l'a dit, et ça fait partie de nos points de divergence au sein même de notre convergence. Ça s'appelle la politique, en effet, et le partenariat politique. Il faut nécessairement qu'on soit en désaccord sur un certain nombre de points pour converger. Parce que si on était d'accord
fusionner
sur tout,
même.
si on était d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Bon, voilà, c'est clair. Bon, mais c'est de bien comprendre que le cadre de ce débat se situe, pour ce qui concerne les communautés précisément autochtones et historiques. C'est pour ça que nous allons, pour ce qui nous concerne, jusqu'au bout de notre logique et de notre démarche. Nous ne demandons pas la reconnaissance de ce que sont les Corses par rapport au droit à une minorité d'être reconnue. Non, c'est pas ça dont on parle. On parle du droit des peuples historiques de France à être reconnus dans leur identité et dans ce qui les constitue. Bon, il est évident que la communauté musulmane n'est pas un peuple historique de France. De ce que j'en sais, on pourra peut-être attendre encore 5 ou 6 siècles pour que ça devienne le cas, encore qu'il y ait quelques changements d'ici là. Mais enfin, pour ce qui concerne notre actualité, c'est pas le cas. Donc, il est évident que si l'on n'inclut pas ce cadre très clair, ce postulat-là, oui, toutes les supputations et toutes les spéculations sont permises. Nous l'entendons parfaitement dans le cadre du débat national et je pense que nous allons devoir œuvrer encore de pédagogie dans le sens de notre propre argumentation pour rassurer ce sujet. Mais encore une fois, je pense que l'essentiel ne réside pas dans les questions sémantiques, peuple, communauté, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la priorité régionale. Ce sont des mesures sociales, identitaires, concrètes. Et si je les ai, je me passe volontiers au moins un temps de la question de la communauté ou du pouvoir législatif. Vous voyez, sur les points sur lesquels nous voulons recentrer le débat véritable, la priorité régionale peut se faire en passant sur ces notions-là, même si, en effet, à terme, il est évident que la France y gagnerait à différencier très clairement la question de ces communautés historiques et la question des communautés issues de l'immigration récente.
Mais alors, justement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette priorité régionale, priorité qui existe aussi, priorité nationale pour le Rassemblement national, beaucoup de gens de l'intelligentsia progressiste accusent, au départ, c'était déjà la préférence nationale, la préférence régionale qui était mise en cause. Et puis maintenant, on parle de la priorité. Alors, ils considèrent que c'est une façon d'euphémiser le discours pour mieux faire passer des thèses qu'ils ne partagent pas ou qu'ils ostracisent. Est-ce que cette préférence nationale, et cette priorité nationale et cette priorité régionale ne sont pas des priorités, parce que c'est le mot qui convient, raciales ?
Raciales. Non, non, pas nécessairement. En tout cas, ça ne s'établit pas sur la question de la race. C'est pas le problème. Pour ce qui concerne la priorité régionale, elle s'établit actuellement, aujourd'hui, dans le cadre de ce que nous proposons, sur une notion de résidence, qui d'ailleurs ne nous convient pas nécessairement. Vous savez que notre mouvement s'est positionné publiquement pour un statut de descendant et pas un statut de résident. Bon, qui n'est évidemment pas la position du Rassemblement national, ce que nous comprenons, mais ça ne nous empêche pas de développer en effet notre propre doctrine et nos propres propositions. Non, écoutez, moi je pense que c'est tout à fait raisonnable d'entendre le fait que sur une île de 350 000 habitants, ceux qui y vivent depuis toujours soient favorisés en termes de logement et d'emploi par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Oui. Bon, premier cercle de priorité. Et ensuite, je pense qu'il est tout à fait logique que ceux qui sont détenteurs de la nationalité française soient priorisés par rapport à ceux qui ne sont pas détenteurs de la nationalité française. Je pense que c'est un double cercle de sécurisation. Dans le cadre d'une île, où il faut quand même le rappeler, hein, c'est que quand on part de l'île, c'est pas comme quand on part de Bretagne vers la Vendée. Hein. Il n'y a pas d'autoroute qui la relie, et pour revenir, c'est 500 euros d'avion aller-retour. Hein. Voilà, ça fait que des Corses qui s'exilent et qui vont dans le département voisin, c'est-à-dire dans le Var, ne voient leur famille qu'une fois par an. Oui, vous voyez ce que ça implique, avec tout le déracinement, que ça implique aussi derrière tout ça. Donc non, je pense que la Corse a quand même le droit de part, au-delà des considérations même ethnoculturelles auxquelles nous sommes parfaitement attachés,
bien sûr,
même d'un point de vue géographique. Ben, mérite en effet un statut qui lui est particulier, qui doit être différent sur ce sujet-là. Donc non, on est loin des considérations de type racial, mais il est vrai que...
Je vous pose cette question, pas pour vous ennuyer, mais parce que je pense qu'il y a une volonté de vous nuire en faisant passer des thématiques qui sont les vôtres pour d'autres thématiques avec des arrière-pensées qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
La France insoumise voit des fascistes de partout, et des fascistes à gauche et des nazis à droite, c'est pas nouveau. Je vois pas pourquoi on ferait l'économie de ce genre d'attaque. Non, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait pragmatique. Vous savez, il y a aussi, dans le cadre, en effet, d'une priorité régionale, il y aurait des gens qui ont la nationalité française, qui habitent en Corse depuis toujours, qui ne sont pas d'origine corse et qui en bénéficieraient. Donc, on est au-delà du cadre ethnique, même si, de fait, en effet, tous les Corses d'origine qui vivent en Corse bénéficieraient aussi de ce statut-là qui, finalement, représente ou se rapproche et se mate de notions telles que le statut de résident qui sont proposées par les autres nationalistes qui, pourtant, ont voté contre la préférence ou, en tout cas, contre la priorité régionale lors de la séquence que nous venons de vivre, qui donnera, d'ailleurs, lieu à un certain nombre de débats animés dans les prochaines échéances et qui aura aussi, évidemment, des conséquences électorales en leur défaveur.
Alors, il y a un mot qui revient aussi souvent quand on parle des Corses. On dit les Corses vivent du continent. S'ils n'étaient pas là, si nous n'étions pas là, ils ne seraient pas là. Ils ont besoin de nous, etc. Or, vous, vous tenez un point de vue que je pense très courageux. C'est de dire que les villas, les résidences, les grandes maisons, etc., qui n'appartiennent pas aux Corses d'abord, doivent être en quelque sorte expropriées.
Non, nous ne parlons pas d'expropriation, non pas jusque-là, mais dès lors qu'on établit une priorité régionale, il s'agit tout simplement de dire que celui qui est détenteur, en effet, du statut de prioritaire régional sur la vente d'un terrain ou sur l'attribution d'un emploi serait prioritaire par rapport à celui qui ne l'est pas, tout simplement. Mais cette priorisation n'implique pas l'exclusivité.
Oui, bien sûr, c'est une hiérarchie.
Et, bien sûr, et elle n'implique pas non plus de caractère rétroactif. Voilà.
Oui, bien sûr.
On ne va pas exproprier les gens, non, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, on est parfaitement attaché à la propriété privée, donc
oui.
c'est pas le sujet. Il s'agit tout simplement d'induire dans le débat public et dans les mesures de protection en faveur des Corses un certain nombre d'éléments pragmatiques.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe entre d'un côté le fait de dire les Corses ont besoin de nous, ils ont besoin de la France, pas seulement sur le plan identitaire ou celui que vous voulez, hein, et de l'autre côté dire ah bah oui mais ils nous veulent plus parce qu'ils n'ont pas envie que nous allions donner des millions, même parfois des milliards, pour pouvoir acheter des maisons en Corse qui leur permettraient d'en vivre très bien, finalement.
Oui, mais tout ça, c'est du bavardage de réseaux sociaux. Non, la vérité, c'est qu'on n'a pas opposé les Corses et la France de cette façon-là. D'ailleurs, les Corses, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de Corses qui ne sont pas d'accord entre eux. La France, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord entre eux. Et puis quoi, on ne va pas quantifier non plus aussi le fait de ce qu'a représenté la Corse en apportant Napoléon et en constituant 25% des effectifs de l'Empire colonial pendant près d'un siècle. Bon, et ensuite, ce que peuvent apporter, en effet, les subventions pour reconstruire telle ou telle route qui va dans tel ou tel village, ou pour financer telle école. Non, écoutez, moi, je pense que tout ça, c'est parfaitement humiliant, il ne faut pas dire ça. Bon, d'ailleurs, les Corses le savent parfaitement. Et puis, il n'y a pas que la Corse. Toutes les zones périphériques peu productives dépendent du reste de la France constituée des métropoles. C'est comme ça. Bon, mais en même temps, les métropoles, les grandes métropoles françaises qui produisent l'essentiel du PIB national, eh bien, manqueraient de beaucoup de choses si elles n'avaient pas à leur disposition les provinces, les territoires plus excentrés. Non, écoutez, moi, je n'entre pas dans ces oppositions-là qui sont très souvent stériles, qui sont souvent alimentées par des ultra-jacobins et par des ultra-indépendantistes anti-français. Bon, nous, on n'est ni l'un ni l'autre. Par conséquent, on ne veut pas alimenter ce genre de débat. Non, il est évident que la Corse a besoin du reste de la France et que la France a besoin de la Corse comme elle a besoin de la totalité de ses territoires. Par définition, sans la totalité de ses territoires, il n'y aurait plus de France. Bon,
et puis disons aussi une chose qui paraît évidente, et dans votre discours, ça va de soi, si j'ose dire, c'est que les Corses sont contents aussi d'être en Corse, avec des Corses. C'est que la Corse doit rester Corse. Or, ça paraît aujourd'hui quelque chose d'absolument épouvantable pour les cosmopolites, tous les mondialistes, tous les jacobins d'ailleurs, qui sont souvent les mêmes parfois, et qui veulent supprimer les identités ethnoculturelles des peuples, et notamment de la Corse.
Mais évidemment, vous savez, nous en Corse, nous sommes encore finalement une des régions de France les plus enracinées. Et même en étant une des régions de France les plus enracinées, nous sommes passés en 20 ans de 250 000 habitants à 350 000, donc quasiment 30% de croix de la population, avec 1,2 enfants par femme, bon, avec un déficit d'un point de vue démographique si l'on part d'une base de natalité. Vous voyez, donc par conséquent, le croix s'est fait par rapport à un apport extérieur de population. Bon, et malgré cela, nous restons l'une des régions françaises les plus enracinées, c'est dire l'état démographique des autres régions françaises. Bon, et il est évident que cette question est essentielle et fondamentale. Et c'est cette question-là qui fait que les Corses votent nationalistes, parce que jusqu'à maintenant, avant que l'on ne découvre vraiment les horribles gauchistes qu'ils sont en réalité, qui se cachent derrière le paravent de l'identité et de la culture corse, comme le font tous les subversifs régionaux, ils s'emparent de ces questions profondément identitaires pour y faire passer un agenda profondément de gauche et mondialiste. Bon, mais c'est ce que nous permettons, nous, de mettre en exergue, précisément. Bon, les Corses votaient pour cela en faveur des nationalistes. Et ils votent aussi pour ces questions-là en faveur de Marine Le Pen. Et pas seulement de Marine Le Pen au présidentiel. Les dernières européennes ont placé Jordan Bardella à 40%. Marion Maréchal à quasiment 10% aux élections européennes. Marion Maréchal et Jordan Bardella, à eux deux, représentent la moitié du corps électoral. Marion, d'ailleurs, qu'on salue et qui est aussi une excellente amie et qui a vocation à rester une partenaire politique, même si, en effet, Identité-Liberté n'est pas particulièrement présente en Corse, mais Marion, qui fait partie des personnalités politiques dans l'échiquier politique français, qui est nationale, qui a été l'une des premières à être absolument bienveillante et à avoir compris toute la portée de ce qu'impliquait notre positionnement politique. Donc, vous voyez, c'est ça la Corse. Hein.
Alors,
la Corse,
dernière petite question, cher. Il faudrait parler peut-être de ce qu'a dit Marine Le Pen, encore une fois, dans ce discours, où elle a rendu hommage, d'une certaine façon, c'était pas très, très appuyé, mais enfin, elle a quand même rendu hommage à Gilles Simeoni, qui est pas un de vos amis, qui est le président de l'Assemblée de Corse. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait un début de commencement, d'ouverture, de débat possible avec cette autonomie qui est proposée, qui est rejetée? D'ailleurs, Marine Le Pen a proposé 4 projets antagonistes au projet actuel, mais il y aurait quand même, malgré tout, un frémissement qui ne pourrait pas être complètement rejeté.
Non, ça correspondait tout simplement à une réalité qui est la suivante, c'est que, vous savez, Gilles Simeoni, à titre personnel, est quelqu'un de tout à fait plaisant et agréable. Pour ce qui nous concerne, nous faisons partie du même conseil municipal. Il est maire à Bastia, je suis conseiller municipal d'opposition. J'ai pu avoir des échanges en amont de toutes ces discussions avec Gilles Simeoni, en effet l'enjoignant à prendre langue avec la totalité des représentants de la réalité électorale au Parlement. J'ai dit la même chose à Marine Le Pen, en lui expliquant qu'en effet, il s'agissait au moins de discuter et de voir s'il y avait des perspectives au moins de compréhension, sinon de convergence sur un certain nombre de sujets. Des rencontres ont eu lieu, ils ont pu discuter, c'est ce qu'a voulu saluer Marine Le Pen, et je pense qu'elle a eu raison de le faire, parce qu'au-delà de ce qui nous oppose politiquement, tout commence par le dialogue et par la discussion. Et puis s'il faut finir par s'opposer, on s'oppose, mais enfin je pense que c'est quand même une grande vertu, au-delà de la simple qualité démocratique d'un tel exercice, c'est une grande vertu que de pouvoir discuter avec les acteurs politiques de premier plan, et je pense qu'en Corse on en a particulièrement besoin. C'est aussi une des choses essentielles qu'a compris Marine Le Pen.
Aujourd'hui, vous êtes allié du RN, vous n'êtes pas membre du RN.
Je suis en effet allié du Rassemblement National. D'accord. Et je suis membre de mon propre parti que
D'accord.
je préside.
D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, un grand merci Nicolas Battini pour cette...
Merci à vous.
Surtout que ça a été un petit marathon entre les deux émissions qui ont eu lieu ce soir sur des thèmes à peu près identiques ou similaires. Et puis on vous dit à bientôt à Paris, je crois que vous y serez d'ailleurs demain. Donc
j'y serai demain et je donnerai une conférence auprès de nos amis du Rassemblement National de la Jeunesse, précisément sur les questions de priorité nationale, régionale et sur la question Corse en particulier.
Bah, très bien, je vous salue, je salue ces militants aussi et puis on espère que vous viendrez à Paris pour autre chose, peut-être même dans les locaux de Radio Courtoisie.
Ce sera bien volontiers.
Merci et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir, nous passons le bobino et nous nous retrouvons tout de suite après.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées. Vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, la DMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Voilà, on se retrouve dans ce libre journal de la chrétienté. Nous venons de parler avec Nicolas Battini de la Corse et du projet de loi qui a eu lieu la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui devrait être ratifié dans les temps prochains. Nous avons bien compris quel était le point de vue de Nicolas Battini qui nous a expliqué un petit peu en quoi les termes de fédéralisme, nationalisme, régionalisme devaient être remis en perspective et en quoi il était utile de pouvoir conjuguer métapolitique et politique. Voilà, donc la chose est faite. Maintenant, j'entends et je crois entendre Monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne.
Oui, il est là.
Ah, très bien.
Il attend patiemment.
Bonsoir, Monsieur l'abbé.
Bonsoir.
Alors, j'espère que vous allez bien d'abord.
Ça va.
Bon, alors vous êtes...
Par ces temps chauds.
Eh oui, par ces temps chauds, cette canicule. Vous êtes donc le directeur de ce libre journal que je suis en train d'animer. vous êtes prêtre et directeur de Monde et Vie. Et va avoir lieu quelque chose de très important la semaine prochaine, le 1er juillet, c'est-à-dire les sacres de quatre évêques par la Fraternité Saint-Pie-X, qui réitèrent en quelque sorte, après 1988, de nouveaux sacres. Alors, je vais vous poser la question très franchement, tout de go, après vous allez pouvoir développer, argumenter, nuancer. Vous êtes pour ou vous êtes contre ces sacres ?
C'est un peu...
C'est un peu privé, cavalier, oui.
Mais je dirais qu'on ne peut s'opposer à ces sacres venant de la Fraternité Saint-Pie-X si on prend en compte le fait que l'Église n'a toujours pas répondu aux questions fondamentales que lui posait Mgr Lefebvre en 1988.
Ouais.
Et non seulement elle n'a pas répondu, mais elle a aggravé la distance qui existait entre elle, l'Église romaine, et ses membres traditionnalistes. Je veux parler de ce texte du pape François,
oui.
Qui fait des évêques les gardiens de la tradition, traditionnis custodes, alors qu'ils sont des observants de la tradition.
Oui.
La tradition est supérieure à l'évêque. L'évêque est là pour la mettre en œuvre, et pas pour la surveiller.
Oui, oui.
Donc, on a un premier problème avec le thème que le pape François avait choisi avant de mourir, peu avant de mourir, pour ce texte. Et ce thème, c'est peut-on interdire un rite immémorial ? Peut-on considérer que le rite traditionnel doit être interdit par les évêques, parce que c'est ça, au fond, le contenu assez simple du texte du pape François.
Le problème liturgique.
Le problème liturgique et le problème d'une interdiction possible de la liturgie traditionnelle.
Ce qui n'avait pas été le cas, évidemment, pendant l'exercice de Benoît XVI, qui avait justement, à travers le motu proprio, réactivé cette possibilité pour avoir recours à la messe tridentine.
Voilà, il y a Summorum Pontificum, le motu proprio de Benoît XVI, qui s'oppose frontalement, le pauvre, il n'en savait rien, parce qu'il n'a pas vu venir, au motu proprio du pape François, qui ne porte pas sur les souverains pontifs, Summorum Pontificum, mais sur les évêques, traditionnis custodes, les évêques qui ont pouvoir sur la tradition.
Mais alors, est-ce que vous croyez que c'est le pape actuel qui a mis en branle, en quelque sorte, le processus que vous critiquez, ou est-ce que ça appartient à François, puisque après que Benoît XVI ait laissé, si j'ose dire, son siège vacant, il fallait bien, à un moment donné, que l'on passât à un autre pape, et que ce pape-là et le pape actuel, maintenant, ne sont pas des papes qui succèdent je dirais harmonieusement au pape Ratzinger.
Oui, il y a évidemment une contradiction entre Summorum Pontificum, le motu proprio du cardinal Ratzinger, qui permettait, et du pape Benoît, qui permettait le rite traditionnel, parce qu'il est traditionnel. Et j'aime beaucoup cette parole de Don Guéranger, qui est un grand docteur liturgique. Don Guéranger disait « Une liturgie que vous auriez vu naître serait pour cette raison une liturgie fausse.
Oui. »
Donc dans la liturgie, il y a vraiment le caractère immémorial.
Oui.
Ce n'est pas quelque chose d'humain, la liturgie. Sinon, on ne la célébrerait pas avec tant de pompe et avec tant de cœur.
C'est la tradition, la transmission.
Voilà. Et la tradition, ça ne s'invente pas.
Oui.
Donc c'est des choses simples que la Fraternité Saint-Pie-X porte pour toute l'Église. Certains membres de la Fraternité Saint-Pie-X ont un peu tendance à considérer qu'ils sont seuls au monde ou seuls dans l'Église et qu'ils luttent pour eux-mêmes. En fait, ils luttent pour nous tous. Et nous tous, nous devons peut-être leur porter notre soutien, comme je le fais ce soir, parce que ce sont des questions d'intérêt général qui sont en cause.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir dans c'est sacre. Une possibilité, alors que je dirais optimiste, ce serait de sacrer ces quatre évêques, puis laisser un temps passer, et que la fraternité Saint-Pie-X puisse avoir un rôle, disons, d'influence, ou en tout cas de possible recadrage de la fraternité Saint-Pie-X. Est-ce que ça ne vous paraît pas quelque chose qui pourrait éventuellement jouer en faveur de Rome et en faveur des traditionalistes?
Mais tout est possible. Moi, je ne risquerai pas à jouer Madame Irma et à me dire ce qu'il en sera dans 10 ans.
Mais non, parce qu'on ne voit que les côtés négatifs.
Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de ne pas diviser les forces de la tradition.
Ouais.
Et de les habituer à considérer qu'elles ne sont pas des petits groupes qui se font la guerre les uns aux autres, mais qu'elles sont au contraire qu'elles portent l'intérêt commun des chrétiens. L'intérêt commun des chrétiens, c'est le respect du rite immémorial. Ça me paraît absolument impossible de penser autrement. Étant chrétien, de penser que le rite n'est pas immémorial, que le rite est une création humaine, qui se modifie avec l'homme, etc. Tout ce qu'on a entendu depuis mai 68, en fait. Hein. Le mai 68 de l'Église étant Vatican II.
Oui, oui.
Et fondamentalement, l'Église est en avance sur la société civile, cette fois.
Oui.
Avec Vatican II en avance sur mai 68. Et c'est vraiment l'idée libertaire. Et il y a une deuxième chose sur laquelle le Vatican n'a pas encore été clair, c'est la liberté religieuse. Bon, il est évident qu'il faut une liberté religieuse. Il n'y a pas de foi sans liberté religieuse. Celui qui est à la foi, elle l'a par sa liberté intime. Et sa quête de la vérité lui donne la liberté de la foi. Mais d'un autre côté, la liberté religieuse telle qu'elle est théorisée par Vatican II, c'est pas moi qui le dis, c'est le père Conga, dans son journal du Concile, elle nous fait perdre plusieurs siècles.
Oui.
C'est même pas rien. Père Conga, qui n'est pas spécialement traditionnaliste.
Oui.
Donc il faudrait, à mon avis, en se mettant sous les auspices du père Conga, grand historien du dogme, essayer de comprendre l'apport propre de l'Église catholique à la question de la liberté.
Alors je vais vous poser une question un petit peu spéciale et un peu naïve, un peu optimiste aussi. Est-ce que le motu proprio est aujourd'hui encore possible dans les églises romaines si des paroissiens demandent à pouvoir avoir une messe célébrée grâce au motu proprio? Est-ce qu'on les en empêche ou est-ce que c'est possible?
Aujourd'hui, vous avez deux textes contradictoires, Summorum Pontificum et Traditionis Custodes. Le deuxième texte dans le temps, donc celui qui l'emporte, puisque c'est le dernier sorti, c'est Traditionis Custodes du pape François, qui supprime le droit des fidèles à la messe traditionnelle, droit qu'avait avec beaucoup de talent, manifesté le pape Benoît.
Oui.
Donc aujourd'hui, on peut pas se revendiquer d'une législation qui paraît contradictoire avec elle-même.
Oui, oui.
Et
s'il y a un groupe...
se trouve devant la question de la fraternité Saint-Pie-X, et on a l'impression que c'est l'éléphant dans la pièce, alors que c'est rien du tout.
Oui.
L'éléphant dans la pièce, c'est que Rome n'a toujours pas répondu aux objections fondamentales des traditionalistes sur la liberté religieuse et sur le rite immémorial.
Oui. Alors, que pensez-vous justement, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'imagine que vous en tout cas lu un petit peu cette fameuse encyclique papale qui vient de paraître. Est-ce que vous en pensez plutôt du bien? Est-ce que vous êtes plutôt critique à son égard? Qu'est-ce que vous en pensez globalement?
J'en pense du bien, mais c'est un nouveau genre de magistère. C'est un magistère qui n'est pas théologique à proprement parler.
Oui, qui est donc différent de la question liturgique. Oui.
Dans les coins. Oui. Le numéro 98, 99 et le numéro 128, 129, si je ne m'abuse.
Oui.
Le fait qu'il soit question de Dieu uniquement dans deux numéros sur 220 montre que là, le pape veut entamer un compagnonnage rationnel avec les forces intellectuelles du monde d'aujourd'hui. On ne peut pas l'en blâmer,
ouais.
Mais il ne faut pas qu'il dise que c'est un compagnonnage théologique,
ouais,
ou spirituel.
Ouais.
Un compagnonnage rationnel.
Alors justement, dans le numéro de Monde et Vie, qui vient de paraître, dont vous êtes le directeur, vous avez consacré un dossier à l'IA, l'intelligence artificielle, Léon XIV contre la nouvelle Babel numérique. Donc c'est un titre choc. Et je vais me permettre de lire l'introduction à ce dossier que j'ai trouvé vraiment très 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 bonne. La tâche de la science actuelle ne consiste plus à découvrir l'essence secrète et donc cachée du monde ou des choses, mais à découvrir le possible usage qu'il dissimule. L'hypothèse métaphysique, elle-même habituellement tenue secrète, des recherches actuelles, et donc il n'y a rien qui ne soit exploitable. Cette phrase, tirée du célèbre livre de Gunther Anders, « L'obsolescence de l'homme » 1956, vient illustrer longtemps avant l'IA le nouveau rapport au monde établi par la modernité, celui des flux et des échanges au profit de la marchandisation universelle. L'homme rétrogradé au rang d'hamster court dans sa roue jusqu'à l'épuisement, dévoilant une accélération sociale, loi d'airain du système, moyen et fin d'une exploitation de plus en plus inhumaine de l'homme. Et on donne la référence. C'est « Accélération, une critique sociale du temps » de Hartmut Rosa. Ainsi, le questionnement autour de l'IA dépasse celui de l'homme devenu incapable de rien maîtriser. Il exacerbe au point de montrer l'impossibilité pour l'homme de penser le monde qu'il s'est fabriqué. Dès lors que l'Église s'attelle à la question de l'IA, paraît vraiment légitime, tant tout ce qui est humain pose une part de notre rapport à Dieu. Richard Dallo, qui est donc un de vos collaborateurs, qui a écrit un article de 2 pages sur l'IA, justement, vient donc présenter le texte tant attendu du pape Léon, avant que l'abbé Raffray éclaire l'ambition métaphysique de l'Église au sujet. Alors évidemment, il y a un entretien avec l'abbé Raffray. Hein.
Le texte que vous avez lu est un peu, je dirais, un peu partial.
C'est l'introduction du dossier.
Mais ça ne m'étonne pas de vous l'ayez choisi entre tous.
Ah bah oui.
C'est celui qui est le plus proche de votre recherche.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et je ne pense pas que ce soit forcément celui qui indique l'esprit de Monde et Vie, encore que l'esprit de Monde et Vie se marque justement par cette liberté d'accueil de pensées qui sont pas toujours à la lettre identique, bien entendu.
Oui.
Donc, le texte de Richard Dallo est, me semble-t-il, absolument excellent, mais vous ne pourrez pas le lire, il est un peu long.
Oui. Et 2 pages.
Je pense que pour le futur lecteur qui s'intéresse à notre tentative, à mon avis, à notre tentative catholique et libre, hein, comme me disait. Je passe.
Vous ne balancez pas.
Je ne balance pas. Mais on a eu de très beaux compliments. Donc,
suite à la parution du numéro.
Sur le plan de la liberté et de la fidélité.
Oui.
Vraiment, l'idée de mon avis, c'est que la fidélité n'empêche pas la liberté, mais la produit. Et que la liberté ne s'oppose pas à la fidélité, mais au contraire, la manifeste.
Oui, c'est ce que vous avez écrit dans votre Cagétan et d'autres livres. Tout ce qui est vrai est libre et tout ce qui est libre est vrai.
Non, c'est pas tout à fait ça. Mais,
alors répétez-la à moi.
La vérité vous rendra libre.
La vérité vous rendra libre, la liberté vous rendra vrai. Oui, oui, oui. Il fait chaud,
non,
vous savez.
La liberté vous rendra vrai.
Oui.
Mais les chrétiens savent qu'il faut chercher la vérité pour être libre. Parce que c'est une question d'amour, finalement.
Oui.
Sans amour, il n'y a pas de liberté.
Alors, la question quand même que pose le numéro de Monde et Vie porte sur l'intelligence artificielle et sur le rapport de l'homme en général et en particulier avec l'intelligence artificielle. Eric Leti a écrit également un édito sur cette question où il est justement pas tout à fait, à mon avis, en phase avec le texte que j'ai lu. Il me semble plus consensuel et plus papiste, pour faire court. Sur la question.
Qui est plus consensuel ? Eric Leti.
Et notamment quand il dit qu'en gros, la technique est neutre, c'est l'usage qu'on en fait qui pose problème et c'est pas le processus technicien lui-même qui le pose. Dans un monde terrassé par le processus technicien, c'est difficile de penser que l'IA pourrait éventuellement être une alternative ou pourrait en tout cas s'apaiser par rapport à ce monde saturé d'objets techniques, vous voyez ?
Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas faire en sorte que l'IA n'existe pas.
Non.
Donc, il faut penser avec.
Oui, mais en la nommant, pour ce qu'elle est.
En la nommant.
Oui.
Que nous avons essayé de faire modestement.
Vous pensez qu'il s'agit d'un processus démiurgique ou pas dans l'IA ?
Non, je pense qu'il s'agit de possibilités, de la potentielle de la matière qui était totalement incroyable, qui demeure vertigineux, et que l'homme ne peut pas faire autrement que d'accepter ce potentiel qu'il découvre. Il ne crée pas.
Oui, mais est-ce
l'intelligence artificielle, elle n'est pas créée par l'homme.
Oui, mais est-ce
elle est découverte par l'homme. Et elle est tellement découverte par l'homme qu'il ne sait pas lui-même où ça l'emmène.
Mais
les plus grands penseurs de l'intelligence artificielle nous disent on ne sait pas où ça va.
Mais Eric Leti, justement, dit l'IA risque non pas d'humaniser le robot, mais d'aboutir à la robotisation de l'humain. Bon, c'est quand même pas uniquement la prise en compte d'un fait technique pour essayer d'en prendre le meilleur usage pour l'utiliser. Quand même, me semble-t-il, quelque chose de plus ontologique qui renvoie à quelque chose de démiurgique, c'est-à-dire d'une création ex nihilo, d'un processus qui va créer l'homme et qui devient le dieu. C'est vous serez comme des dieux, vous savez, comme disait Gustave Thibon.
Oui, c'est ça. Mais alors, il y a en fait là deux réactions possibles. La réaction d'une critique du progrès, qui est la réaction des décroissants dans le même ordre d'idée.
Oui.
C'est la même. Et puis la réaction de que va-t-on faire de ce progrès qui se découvre à nous, que nous n'inventons pas, que nous observons et dont nous devons faire effectivement le meilleur usage, comme dit Leti.
Oui. Donc on peut avoir une vision très radicalement critique de l'IA tout en essayant d'orienter dans son existence de tous les jours cette IA selon un mode qui ne soit pas forcément que délétère.
Voilà, et une intelligence critique de l'IA, oui, mais l'IA existe. Demain, un enfant de 10 ans va pouvoir y avoir recours pour faire ses devoirs.
Oui.
Non, personne ne peut faire qu'il en soit autrement.
Alors, justement, Léon 14 contre la nouvelle Babel numérique, c'est donc l'article de Richard Dallot, qui, justement, alors lui, met un peu les pieds dans le plat.
Oui. Il propose des limites, justement, à la pratique de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et je pense que c'est très, très important. On ne peut pas laisser l'intelligence artificielle grandir sans limite à être accessible d'un simple clic.
Vous avez prononcé tout à l'heure le mot décroissance. Est-ce que, justement, la réponse n'est pas d'aller dans un sens de décroissance de la technique dans le processus humain qui fait que l'homme est de plus en plus arraisonné par la technique. Comme disait Thierry Molnier, l'homme deviendra prisonnier de ses propres triomphes techniques. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement là quelque chose qui est un enjeu presque métaphysique.
Oui, c'est celui que voyait Bernanos aussi quand il parlait de la France contre les robots.
Oui, oui.
La France contre les robots, c'est plus que jamais une vérité.
Oui.
Mais contre les robots ne veut pas dire qu'on puisse supprimer les robots.
Oui, 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 oui.
Parce qu'à ce moment-là, ceux qui les suppriment se mettent en état d'infériorité vis-à-vis de ceux qui les gardent.
Oui.
C'est d'une telle infériorité que c'est à en crever, évidemment.
Oui, 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 oui.
Donc, la situation actuelle nous pousse à ne pas être dualistes.
Oui.
Et pour revenir au sujet des sacres de tout à l'heure, je crois que c'est très important de ne pas se concevoir comme dans un dualisme où il y a soi-même et le monde entier.
Oui.
Ça, c'est vraiment un dualisme insupportable.
Prendre en compte le bien commun, les hommes, Dieu, c'est-à-dire les communautés, le divin et l'humain, c'est-à-dire
Et travailler pour le moindre mal, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Oui.
Le bien absolu n'existe que dans le divin, dans la lumière du ciel.
Alors, quelles sont ces limites que propose Richard Dallot, justement, dans cet article ? Les quelques limites au processus de l'IA ?
Alors, je vous avoue là que vous me posez une colle parce que je n'avais pas pas lu son article spécialement, mais simplement, lorsque je l'ai lu la première fois, j'étais étonné de la largeur d'esprit et de la puissance de cet écrit. Richard Dallot vous donne des chroniques toutes les semaines, tous les mois, à chaque numéro. Et là, je pense qu'il s'est vraiment surpassé.
Bah, il y a une belle conclusion assez lapidaire, mais qui renvoie un petit peu à ce que vous venez de dire. Il parle de l'IA et il termine « Contre cela, Léon XIV n'appelle pas à briser la machine, il appelle à reprendre la parole. »
Oui, ben voilà, c'est très beau.
Je crois que c'est très fort.
Tout est dit.
Oui.
Et tout est dit, et en particulier le courage du pape qui a l'intelligence, dans cette circonstance, de ne pas répéter ce qui a déjà été dit 10 fois, mais de proposer un nouvel enseignement social de l'Église.
Oui, parce que cette encyclique papale vient après Rerum Novarum, encyclique voilà, du 19e siècle.
Rerum Novarum, c'est sur la condition des ouvriers.
Oui, la doctrine sociale de l'Église. Oui.
Mais évidemment, les robots, ce n'était pas tout à fait le problème à l'époque.
Oui, oui.
Alors c'est notre problème.
Mais il y avait le problème de l'industrie, de la productivité, un certain nombre de choses qui faisaient que les ouvriers étaient entravés dans leur capacité à pouvoir exercer leur métier normalement.
Voilà, mais on ne peut pas non plus construire une politique purement nostalgique de la défense de la condition ouvrière.
Bien sûr.
Parce que ça ne mène à rien.
Bien sûr, bien sûr. C'est un rappel. Mais est-ce que vous croyez que le pape actuel est un pape qui, pour l'instant, malgré ce que vous disiez tout à l'heure à propos des sacres, etc., etc., est-ce que vous diriez que ce pape annonce pour l'instant...
À propos des sacres, le pape a voulu être de côté en disant que les sacres, c'était réglé par l'excommunication ipso facto. Donc il n'y a pas d'excommunication déclarée, il y a une explication selon le droit.
Oui.
C'est assez lâche d'ailleurs entre nous, hein, parce que quand cette excommunication s'applique aux femmes qui ont avorté, ça veut dire qu'on leur fait pas, elles n'ont pas le droit à un procès, elles sont excommuniées par le fait même qu'elles aient avorté. C'est quand même un petit peu raide, me semble-t-il. Il y a des avortements qui existent dans des circonstances extrêmement pénibles et difficile.
Oui, bien sûr.
Ne serait-ce que lorsque la vie de la mère est en danger.
Oui.
Eh bien non, il y a toujours excommunication ipso facto. Et c'est cette excommunication ipso facto qui va être réservée à la fraternité Saint-Pédis. Et je pense que c'est se débarrasser du problème à trop bon compte, trop facilement. Comme on se débarrasse de l'importunité des femmes qui sont enceintes et qui ne trouvent pas une société assez généreuse pour qu'elles accouchent.
Vous dites en fait qu'il y a un problème de mœurs du côté de la fraternité Saint-Pédis, c'est un problème liturgique du point de vue de Rome.
Oui, si vous voulez, du point de vue de Rome, il y a le problème de ce rite immémorial qui n'ont toujours pas vu la force. Et du point de vue des traditionalistes, il y a le désir d'être traité autrement que par la mécanique juridique.
Oui. Oui.
Si le pape avait, si le pape Léon avait voulu rencontrer les traditionnalistes ou rencontrer quelques-uns d'entre eux, je suis sûr que la situation serait très différente aujourd'hui.
Vous allez me dire que votre personne ne compte pas beaucoup, mais moi je pense qu'elle compte, et c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, personnellement, ecclésiastiquement, dans les mois qui viennent, après l'apparition de cette encyclique, après le sacre des prêtres, des archevêques, des évêques, on va y arriver. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une possibilité de dialogue, ou est-ce que vous pensez que ça sera très difficile de pouvoir essayer d'œuvrer salutairement, de façon intermédiaire, médiatrice, entre les deux camps?
En tout cas, il faut qu'il y ait dialogue et il ne faut pas que Rome se retranche derrière l'ipso facto du droit.
Oui.
Ça, c'est vraiment indispensable, parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes, et il s'agit de leur foi, c'est-à-dire de ce qu'ils ont de plus précieux. Et Rome n'a pas répondu aux questions que leur foi pose à l'Église.
Alors, je signale donc l'entretien avec l'abbé Mathieu Raffray, IA, l'Église, lumière dans la nuit. Donc la Beyrafray
est
aujourd'hui supérieure du district d'Europe de l'Institut du Bon Pasteur.
C'est un des premiers théologiens à s'être intéressé à la question de l'IA, de l'intelligence artificielle, et à avoir organisé des conférences sur le sujet à l'Angélique à Rome.
Il y a aussi un article de François Hoffmann sur le pape voyageur, le pape actuel, hein, j'entends. Voilà, donc ça fait un numéro assez complet. Et puis, dans les pages vertes, en l'occurrence, il y a un entretien très intéressant de Mathieu Boccoté qui s'intitule « Le Québec doit devenir un État-nation ». Alors, le titre peut paraître très provocateur, mais...
Alors, le titre est de ma pomme, je vous avoue.
Ouais, je m'en doute.
mais il me semble que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'est Mathieu Boccoté, disant que si le Québec n'est pas un État libre, l'identité québécoise va dépérir et se perdre.
C'est ça. Parce que Boccoté a un peu cette particularité d'être souverainiste, mais sachant que le souverainisme au Québec, ce n'est pas le souverainisme en France. Le souverainisme en France, c'est le souverainisme en général, je dis bien en général jacobin, alors que le souverainisme de Mathieu Boccoté est un souverainisme plus régionaliste.
Oui, mais ça, nous disons ça de notre perchoir français.
Ouais.
Mais je pense que pour lui, c'est la même chose.
Oui, pour lui, c'est la même chose.
Il le dit d'ailleurs. Moi, j'avais essayé d'insister sur la question religieuse qui me paraît. Parce que le souverainisme québécois est anti-catholique.
Oui.
Vous savez, la Révolution tranquille au Québec, c'est une opposition à l'ordre catholique et aux évêques qui le défendent. Que cet ordre soit pré- ou post-conciliaire.
Alors, il y a une très belle phrase que vous mettez en exergue qui sent de Boccoté. Les Québécois savent qu'il n'y a rien d'universel qui est situé, que l'universel est indissociable des médiations qui permettent d'y accéder. Alors ça, c'est à la fois très catholique et assez maurassien et même assez péguiste. Hein.
Ça pourrait servir d'accroche à votre émission sur la Corse.
oui, exactement. Le charnel et le spirituel, oui. Et les médiations, oui. On renvoie, ça renvoie aussi un peu à Peggy, dont je pense que Boccoté est un peu un des lecteurs.
Alors Boccoté nous confie que c'est son père qui l'a mis sur Peggy et sur ses écrivains catholiques.
Oui.
Boccoté n'a pas la foi catholique officiellement, en tout cas.
Non.
Mais son père lui a appris la liturgie, la littérature catholique.
Oui, oui.
Et il lui a appris à la lire.
Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est que dans le livre qu'il vient de publier avec Laurent Dandrieux, Laurent Dandrieux qui lui est, ça n'est pas impudique que de le dire, il est catholique, s'est prêté à un dialogue avec Boccoté, et c'est intéressant parce que vous avez l'agnostique qui défend une vision civilisationnelle chrétienne et le catholique plus traditionnaliste qui défend lui-même la foi et la civilisation chrétienne.
Oui, c'est tout le prix de cet ouvrage que vous avez raison de... recommandé pour nos auditeurs.
Oui.
Et c'est vraiment très important, je pense.
Et qui s'intitule « Le pessimiste joyeux ». Entretien avec Laurent Dandrieux chez Fayard. Pessimiste joyeux, d'ailleurs, c'est une des définitions qu'on donne souvent à l'homme de droite. Même s'il n'est de moins en moins, d'ailleurs. Même s'il est de moins en
joyeux,
moins...
Joyeux, maintenant, c'est un peu côté ringard. Ouais. Parce que plus personne n'est joyeux, et en particulier durant la canicule.
Ça, c'est vrai que ça assombrit les visages.
Hein. Terrible.
Et les masques tombent, si j'ose dire. Pas encore, mais bientôt. Bon, alors, monsieur l'abbé, vous êtes toujours... Il y a toujours des articles aussi intéressants dans mon dévis, avec des signatures que je retrouve toujours, comme François Lachoux, « Sous le soleil des deux Siciles », qui est assez intéressant.
Voilà,
Jeanne Smith, Olivier Figueras, un article de Boissel sur Jean Rouault, « Puissance de l'imagination chrétienne ».
Ah oui, alors avec Boissel, on a une véritable critique littéraire. Ça, c'est pas donné à tout le monde, et je suis reconnaissant de ce qu'il produit, qui est vraiment de bonne qualité.
Une véritable aussi historienne, Anne Bernet, qui a écrit un article sur l'inclassable marquise de Sévigné. Et puis, un article de vous d'ailleurs, Marico Rédemptrice, encore et toujours, à l'occasion de la parution de deux livres de Karen Darentière, qui avait d'ailleurs publié un catéchisme de l'Église catholique il y a une vingtaine d'années ou 25
oui,
ans, je crois.
Oui, je me suis beaucoup servi au moment de cette parution pour les catéchèses pour adultes.
D'accord, qui était paru, Parce qu'elle
elle a lui-même suivi une catéchèse pour adultes, et elle a l'art de mettre les mystères de la foi à la portée de tous.
Ce livre était paru chez Rémi Perrin, aux éditions de Rémi Perrin à l'époque. Et puis, le livre de Guy Barret, Marie Co-Rédemptrice, mère, médiatrice et avocate.
Guy Barret a participé à plusieurs numéros de Monde et Vie, et il a l'art lui aussi de mettre à la portée de tous les vérités théologiques les plus difficiles, surtout quand elles sont mariales.
Puis alors, il y a aussi évidemment les textes en général de Richard de Sèze qui s'intéresse picturalement, mais aussi cinématographiquement grâce à l'art cinématographique. Il est toujours dans
le texte de Richard de Sèze
dans tous les numéros.
Est un plaisir, est une jouissance. Et on sent qu'il s'approche au plus près maintenant de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la beauté. Dans chaque numéro, nous avons cette sublimation de beauté artistique par la vertu de la plume.
Et d'autant plus que, bon, Richard de Sèze travaille à Radio Courtoisie, mais il écrit des livres, il écrit beaucoup d'articles dans de nombreuses revues. On ne sait pas très bien comment il fait pour dormir. Peut-être est-il d'ailleurs insomniaque, c'est possible, parce qu'on a l'impression qu'il mène 38 heures en 24, quoi. C'est vraiment incroyable. Et il est toujours présent dans chacun des numéros de Monde et Vie. Alors là, il a traité d'un film qui s'appelle L'Abandon. Alors on en a entendu un peu parler de Vincent Carenc.
Ah, il faut que vous alliez voir L'Abandon.
Oui.
Il faut que vos auditeurs aillent voir L'Abandon.
Oui, oui.
C'est donc l'histoire de
Samuel Paty.
Cette fatwa sur un professeur de l'éducation nationale qui meurt décapité.
Ah oui, bien sûr,
Samuel Paty. Et le film n'est pas du tout partisan. C'est un film qui suit les 10 derniers jours de la vie de Samuel Paty, heure par heure.
Ah oui.
Et on voit justement l'abandon auquel Samuel Paty doit faire face, parce que ses collègues commencent à le trouver un peu encombrant au fur et à mesure qu'il se découvre anti-islamiste.
Oui.
Non, anti-islamiste parce qu'il est poursuivi lui-même par des islamistes.
Oui, oui, oui. Oui.
D'abord sur le net et puis dans la réalité de la sortie de l'école. Non, c'est vraiment un très beau film. Il n'y a pas de... Vous pouvez aller le voir sans condition.
Oui, il n'y a pas de violence extrême ou
de
choses particulièrement mortifères.
Et en même temps, une grande fidélité au personnage, et je pense qu'au personnage, autant en particulier au personnage de Samuel Paty.
Je ne sais pas d'ailleurs,
très bien joué.
Est-ce que Cheyenne Caron a consacré un film à l'affaire Samuel Paty?
Non.
Non, hein?
Non.
Elle a fait quelque chose sur le père Hamel.
Elle a fait quelque chose sur le père Hamel.
Oui.
Et sur l'apôtre, je crois que ça s'appelle.
Et l'apôtre, oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a déjà un petit moment. Et puis sur Patrie et sur beaucoup d'autres films qu'elle fait, puisqu'elle met en scène presque un film ou deux films par an. Et je crois que d'ailleurs que Richard de Sèze en a parlé antérieurement. On est quelques-uns à suivre un petit peu le cheminement de Cheyenne Caron, ouais, qui n'est pas facile parce qu'elle n'est pas subventionnée. Elle a quand même à son arc, je crois, une quinzaine de films.
Elle a touché un peu la blogosphère, donc c'est pas mal.
Ah, pourquoi alors
Autant que je sache, hein, je veux pas...
Ah bon. Elle aurait des intérêts chez Bolloré.
Non, ça va pas jusque-là.
Non. Peut-être
Son travail est apprécié chez Bolloré.
Oui. Bon, ben, on espère qu'elle va pouvoir continuer à œuvrer. Et puis, je rappelle donc Monde et Vie, Léon XIV contre la nouvelle Babel numérique, intelligence artificielle, dans le nouveau numéro de Monde et Vie, le magazine des Renaissances françaises, mai 2026. Comment on peut faire pour s'abonner à Monde et Vie?
Alors, s'abonner à Monde et Vie, boîte postale 200-17.
Oui.
200-17, 49-260, 49-260, Montreuil-Bellay.
Montreuil-Bellay. D'accord, merci voilà. Monsieur l'abbé.
Abonnez-vous si vous tenez à la réflexion libre, parce que le papier est sans équivalent. Tout ce qui paraît sur Internet est emporté par le flux.
Exactement.
Le papier reste.
Exactement.
Et donc, il y a un devoir d'excellence quand on écrit sur papier.
À très bientôt, monsieur l'abbé. Bonne soirée. On se retrouve de toute façon dans 15 jours avec mes propres auditeurs. Et j'espère que vous serez là dans un mois. La canicule ne se sera pas encore abattue sur vous. Merci et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de Chrétienté dirigé aujourd'hui par Arnaud Guillot-Janin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 25 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.